Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes, c'est incroyable, le lundi 1er juillet, il est 8h30, il nous a rejoint, il est en stage avec nous pendant un mois. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Bienvenue à toi, dans un instant on va faire connaissance, hein, puisque les auditeurs, auditrices vont t'entendre sur cette antenne pendant un mois, des reportages, tu vas bien te marrer, t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Super.
Juste après, ce sera suivi de... on part à Saint-Enimy. Dans un instant, pour le festival de bande dessinée, il a encore une fois cartonné, j'y étais hier matin. On aura les deux premières interviews, celle de Philippe et puis une autre interview. Mais comme j'ai un peu la gueule de bois, comme tout le monde ce matin, je crois que tout le monde se réveille un peu la gueule cassée. Mais bon, c'est comme ça. En deuxième partie d'émission, Léo m'a demandé de passer un reportage fait lors de la journée des arts, ce sera tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab. Pas d'édito aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le moral, j'avais pas envie de l'ouvrir ce matin en fait, j'aurais pu vous dire 200 000 trucs, mais écoutez les autres antennes si vous voulez entendre parler de politique, puisqu'aujourd'hui c'est pas sur Barthas qu'on a envie d'en parler. Samuel, t'es avec nous pour un mois, pour que les auditrices, auditeurs sachent qui tu es, dis-nous tout, d'où tu viens ?
Alors de base j'habite à Quézac, mais je suis parti à Montpellier l'année dernière pour entamer mes études dans l'audiovisuel, option métier du son, en BTS à Montpellier.
Montpellier, ça se passe bien ?
Ça se passe super.
Est-ce que, donc là t'as quoi, 19, 20 ans c'est ça ?
J'ai 19 ans ouais.
19 ans, ça va ?
Tout se passe bien.
À 19 ans, t'as pas la gueule de bois ce matin ?
Non, j'ai pas fait la fête, je savais que je commençais mon stage aujourd'hui.
Ah, moi je parlais pas de faire la fête, hein. Je parlais surtout de ce qui s'est passé au niveau des élections. Quand on est jeune, quelle impression ça fait ?
Il y a beaucoup de changements dernièrement, on est un peu surpris de tout. Et on découvre un peu la vie politique à notre âge, j'ai l'impression.
Ah, ça pique. Dis-moi, t'as des projets t'as fait cinéma, t'as envie de faire quelque chose de particulier dans le cinéma ou
Alors, pas spécialement dans le cinéma, en fait. Je sais que j'ai envie de travailler dans le son. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire des études et faire plusieurs stages cet été pour savoir exactement dans quoi je voulais m'engager.
Moi je vais essayer de faire un son à Hilo ce matin alors que ça sature dans tous les sens, mais je crois que ça va pas du tout. En tout cas, bienvenue à toi, merci d'être avec nous, on va bien se marrer pendant un mois. Tiens, j'ai pas fait d'édito, mais n'empêche que j'avais envie de passer une petite chanson qui s'appelle La Flamme de Sinsemilia. Juste après, on part au festival Enimi BD, ce sera suivi du reportage de Léo à la journée des arts au collège. Ce morceau s'appelle La Flamme.
Ma colère, je sens urgence. Même si ma peau est claire, j'entends les gens dire oula. Les fachos reviennent, ces gens-là n'ont pas tant. Mais sont en retard d'une guerre, pas les fachos. Et les fachos sont là, c'est pour le voir, pour le voir. Ouvre les yeux, regarde les fachos. Et les fachos sont là, rends-toi compte du danger. Ouvre les délits, dis souviens, c'est clair. Le born new Hitler, c'est du pareil. Oh, même le pouvoir, le pas encore, mais c'est la même demeure. Les mêmes mensonges, les mêmes agouts, le même amour de la haine. Ouvre, c'est clair. Le born new Hitler, c'est du pareil. Oh, même.
Sauf que 50 ans après, le diable ne parle plus. Son immonde blabla, il le gère pour ses francs. Sans que la mort est bien hantée, mes tympans. Il faut le réduire au silence pendant qu'il est encore temps.
Ça fait trop longtemps qu'ils avancent.
Je les vois au pouvoir dans certaines grandes villes de France.
Ça fait trop longtemps qu'ils avancent.
Alors,
j'en appelle à la résistance. La flamme, la flamme a grandi. Dans trop d'endroits, le feu a pris. Faut-il la moindre bémol pour qu'on combatte l'incendie. La flamme, la flamme a grandi. Dans trop d'endroits, le feu a pris. Faut-il que tout le pays brûle pour qu'on combatte l'incendie.
Ah,
cinéma dépasser l'abominable.
Je sais qu'ils préparent leur arsenal pour une nouvelle guerre tribale. Déjà parfois résonnent les valeurs ont-ils changé de cadavre.
Et les gens s'habituent, leur présence est banale. J'ai marqué au mic, c'est que je rêve d'un sursaut radical. Le plus entendre parler de discrimination raciale. Je connais de cette histoire, elle mènera aux chambres à gaz.
La flamme, la flamme agrandit. Dans son endroit le feu a pris.
Faut dire la moindre bébouille pour qu'on combatte l'incendie.
La flamme, la flamme agrandit. Dans son endroit le feu a pris.
Bah, le festival bat son plein, c'est bien. Ce dimanche matin, il y a du monde parce que hier c'était sport, hein,
alors,
le samedi.
C'était sport, mais le pire c'est qu'il y avait du monde. Et donc c'était sport pour nous organisateurs parce que cette année, comme on était privé de salle à cause des élections, on avait réparti un petit peu des auteurs à l'extérieur. Il a fallu s'organiser pour qu'ils puissent se mettre à l'abri et continuer à dédicacer. Mais par contre, là où les dédicaces se déroulaient, on était dans la grande sérénité. Les auteurs étaient bien, les visiteurs étaient contents. Donc finalement, pour eux, tout s'est bien passé. Pour nous, on s'est un peu mouillé.
Comment t'expliques le succès de ce festival depuis 17 ans maintenant, hein ?
Alors, je crois que les auteurs qui sont là, pour certaines depuis plusieurs années, ou les éditeurs, nous disent « vous avez un public ». Et je crois que là, ça se confirme d'année en année, même dans des conditions difficiles comme hier, l'après-midi du samedi a été un flux régulier, pas de pluie, de visiteurs. Donc on a effectivement un public, qu'on peut définir nous en trois parties, hein, un public d'initiés qui viennent de très loin. Hier matin, il y en a qui étaient là à 2h du matin, 2h, 3h, 5h, 8h, parce qu'ils venaient de 800 km, 1000 km, et ils voulaient à tout prix voir un auteur. Après, on a le public local qui a fait de ce festival sa librairie annuelle. Et donc les gens, ils viennent là, ils font le plein, voilà. Et puis on a les publics qui nous découvrent à travers bien sûr la communication, les radios, etc. Mais aussi à travers les projets scolaires qu'on mène tout au long de l'année. Et tout ça, ça fait une belle fréquentation.
Puis quel monde merveilleux quand même, parce que quand je me balade ici et que je vois tous ces auteurs, ces autrices, c'est d'une diversité absolument incroyable, il y aura vraiment pour tous les goûts.
Absolument, ça c'est l'essentiel pour nous. Dès qu'on a repris, ça fait 12 ans maintenant, 13 ans, qu'on a repris ce bel événement qui est ce festival, on a tout de suite voulu ouvrir et faire en sorte que l'ensemble du monde de la BD puisse être présent. Que ce soit des professionnels, des éditeurs installés ou des éditeurs alternatifs ou des auteurs indépendants. Et puis surtout des thématiques très variées. On est là, cette année, on a mis un peu en valeur, bien sûr, la thématique du Larzac, puisque nos amis Verdier et Terral ont fait un pavé magnifique chez Dargo. Hier, on a eu une conférence de Pierre Terral, de Pierre-Marie Terral, qui était un pur plaisir. Mais on a aussi, bien sûr, de l'heroic fantasy, on a du roman graphique, on a un gros parterre aussi au niveau jeunesse. Donc tout le monde peut y trouver son compte. Et puis des éditeurs comme Jargy, hein, qui nous est fidèle et qui a aujourd'hui un catalogue d'auteurs de 180 auteurs avec des postures très, très significative en termes de points de vue sociaux, de points de vue documentaires ou politiques. Donc chacun doit pouvoir effectivement ici trouver le livre qui l'intéresse.
Il reste quelques heures avant la fin du festival. Ce soir, tu vas te sentir comment ? Tu vas te détendre totalement et dire « Waouh, encore une belle année !» Ou alors tu vas déjà penser à la suite, peut-être faire une bouffe avec tous les auteurs, les autrices, et puis dire hey, « Tu reviens l'année prochaine ou... ?»
Alors on est déjà dans les trois, effectivement, puisqu'on a déjà un peu négocié quel serait celui qui va nous présider l'année prochaine le festival et qui fera donc l'affiche. Mais ça, c'est un scoop qu'on va garder un peu.
Après... À l'année prochaine sur Radio Bartas, quand même.
Voilà, c'est ça. Après, effectivement, on a un temps convivial avec les auteurs avant de se séparer ce soir, qui se situe au domaine des Boissés, qui nous est mis à disposition par le conseil départemental, fort aimablement. Donc c'est un moment un peu de respiration, à tous les sens du terme, puisqu'on s'élève, on profite de ce paysage magnifique et de cette architecture des Boissés. Et puis, bien sûr, c'est aussi le moment de se projeter avec les auteurs, ceux qui souhaitent revenir, ceux qui souhaitent amener des copains, des amis, puisqu'on est aussi beaucoup dans ce cooptage entre auteurs qui se disent « Ah, Saint-Denis, il te faut y aller, quoi. Il te faut y aller. »
Merci beaucoup, Philippe.
À bientôt.
Marc Tisano, bonjour.
Bonjour.
Prix nouveauté sur le festival Bulle de Bure, félicitations, ça fait quoi ?
Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. D'autant que je suis venu en janvier avec Philippe, qui organise le festival, et on a visité des classes, et on a notamment travaillé avec un collège à Jonzac. Non, c'est presque comme ça le nom.
Je pourrais pas t'aider sur ce coup-là.
Et qui a fait un livre, ils ont gagné le prix du concours national de la résistance, qui est un prix qui est décerné tous les ans à des classes qui mènent des projets de vidéos. Et là, c'était une bande dessinée que les élèves ont fait au collège.
Alors, est-ce que tu peux me dire comment se dit ta BD ? Parce que en l'analysant, j'étais là, je ne sais pas le dire en fait. Stuhoff ?
Non, c'est le Struthoff. Struthoff.
Ouais,
le U sans le umlaut, les deux petits points, c'est un U en allemand. C'est de l'alsacien. C'est une station balnéaire, d'ailleurs, le Struthoff, au départ, Natzwiller, où il y avait une petite gare. Et c'était des anciennes pistes de ski. Et puis de randonnée pour l'été, qui au début de la guerre a été transformée en camp de prisonniers, puisque la région a été annexée au Grand Reich. Et c'est le seul camp en France. Donc il n'était pas, administrativement, il n'était pas en France quand il a été construit. Et il a été découvert, puisqu'il n'a pas été libéré par les Américains. Il était vide à la fin de la guerre. Il avait déjà été vidé de ses occupants. Donc il a été découvert juste après la fin de la guerre, en fait.
En quelques mots, l'histoire ?
Alors l'histoire qu'on a mis en place, ça vient d'une commande du directeur du musée, c'est un lieu de mémoire maintenant, qui a demandé à Yael Hassan, qui est une autrice jeunesse, de faire un roman sur le camp. Et comme je venais d'adapter deux de ses romans, Momo et le Petit Prince des Bleuets, et puis Un grand-père tombé du ciel, qui sont ses deux best-sellers, je les ai adaptés. Et du coup, on est parti sur l'idée de faire plutôt une bande dessinée, ce qui permettait d'amener de l'image. Et la bande dessinée, c'est parfois un peu moins violent que la photo, par exemple, parce qu'il y a des documents dans les archives du musée qu'on a pu nous voir, mais qui sont impossibles à montrer à des enfants quand ils apprennent ce qui s'est passé pendant la guerre. Voilà, c'est un peu important de tout leur raconter, et en même temps, les images sont parfois terribles.
C'est génial, hein. Je parlais tout à l'heure de Larzac, hein, qui a gagné le prix du festival. Ici, oui. Toi, tu as le prix de la nouveauté. C'est une porte d'entrée formidable dans l'histoire, dans des luttes, se rappeler la mémoire, la bande dessinée pour les enfants, pour les jeunes.
Bah, aujourd'hui, c'est même fondamental. Et on a la chance avec la bande dessinée d'avoir des éditeurs qui permettent de... Il y a plein de séries, il y a Les Enfants de la Résistance. Moi, j'avais fait L'Enfant Caché il y a 12 ans, qui a été multiprimé, qui a été traduit, qui a une très belle vie. C'est un livre qui a une très belle vie. Il y a Jean-David Morvan qui fait beaucoup de livres autour de la Seconde Guerre mondiale. Et en littérature jeunesse, c'est pareil. Il y a énormément de productions sur absolument tous les sujets. Les gens ont toujours l'impression qu'en jeunesse, on se limite à des trucs un peu rigolos. Alors on en fait, parce qu'on aime bien ça aussi, et parce que la vie c'est aussi de se marrer parfois. Mais on peut aussi discuter extrêmement sérieusement avec les enfants en s'adaptant à leur âge, à leurs connaissances, à leur niveau psychologique, j'allais dire, parce que évidemment tu racontes pas, je sais pas moi, les camps de concentration à des enfants de 6 ans. Donc voilà, donc il faut adapter la narration Et quand on travaille pour la jeunesse, on a l'habitude de côtoyer les enfants, on sait jusqu'où on peut aller et on sait comment amener les choses. L'idée n'est pas de les traumatiser, hein. L'idée c'est de les éveiller pour que les gamins soient plus concernés par leur vie, puisque c'est eux qui construisent le monde de demain. On leur laisse parfois des trucs pas toujours sympas. Il va falloir qu'ils se dépatouillent avec ça. Donc mieux ils seront armés, mieux ce sera en fait.
Justement, toi, c'était quoi, quand tu étais enfant, ta première rencontre avec la bande dessinée où tu t'es fait « Waouh, c'est quoi ce truc qui m'arrive dans la tête ?»
Alors, la bande dessinée, pour moi, c'est venu avec plutôt des petits illustrés. C'était des BD italiennes qu'on appelle les fumetti. Donc, il y avait des récits de guerre. C'est pas d'une grande qualité narrative. Mais je lisais ça de manière assez compulsive. Je pense que c'est l'équivalent de ce que les gamins aujourd'hui lisent avec le manga. Un truc où il y a de la bagarre, il y a des aventures, tout ça, et c'est assez chouette. Et puis après, ta culture, elle se fait aussi par tes études, par les mélanges, les films que tu vois, les romans que tu lis, les histoires que tu entends autour de toi. Ça te nourrit d'une vie incroyable. Et c'est aussi pour ça que la bande dessinée, depuis 20 ans, 30 ans, elle a beaucoup évolué, parce qu'avant, elle était à destination des enfants, donc elle était très surveillée. Et puis, il y a eu des générations d'auteurs qui sont arrivés en ayant fait, des études de lettres, avec des références au cinéma, donc de la science-fiction, l'heroic fantasy. Il y a tous les genres en bande dessinée. Il y a 6000 BD qui sortent tous les ans. Moi, quand il y a quelqu'un qui me dit « Oh, j'arrive pas à trouver quelque chose qui me plaît », je comprends que ce soit difficile de trouver parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a forcément des trucs pour tout le monde en fait, pour tous les publics.
Et ton entrée dans la bande dessinée justement, comment tu t'es dit « ça y est, c'est ça que je veux faire, c'est mon métier », finalement quel est ton parcours ?
Alors, moi je faisais des études de philosophie, je pensais que j'allais devenir prof. J'étais pion et je remplaçais un prof de philo qui était dépressif et alcoolique. Ça m'a pas donné hyper envie. En vrai, je me suis dit « ah ouais, ok, d'accord ». Et à côté de ça, je faisais de la bande dessinée et j'ai rencontré Michel Plessis, Jean-Claude Fournier qui m'ont invité chez eux. Et je rencontrais là des gens adorables, joyeux. Michel très cultivé, Jean-Claude Fournier aussi. Et je rencontrais des belles personnes et je me disais « mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire ». Et je suis arrivé dans mes études à un moment où se développait la photocopie. Dans les villes universitaires, il y avait des grands magasins de photocopie. Ce qui est une invention géniale pour moi, parce qu'on pouvait faire des fanzines. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des livres, des magazines, en tout petit tirage, avec très peu d'argent. Et on avait une liberté maximale, parce que l'idée pour nous n'était pas de vendre. On allait après dans les festivals vendre nos productions, mais on n'en vivait pas, donc on était très très libre. Et après, j'ai commencé à travailler pour mes premiers boulots payés, c'était chez Nathan. J'ai fait tous les livres de maths, physique, chimie de Nathan pendant 7 ans. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça peut aussi devenir un travail. Donc, c'est d'autres contraintes. Il y a moins de liberté. Mais, et mine de rien, ça fait 30 ans que je gagne ma vie avec le dessin, en fait. Et voilà. Donc, moi, j'alterne entre des livres illustrés pour la jeunesse, quelques bandes dessinées d'adaptation, L'île aux 30 cercueils, Le cheval d'orgueil, par exemple, qui sont plutôt pour les adultes, et beaucoup de livres pour les enfants, parce que c'est un public que j'adore. Je passe beaucoup dans les classes. Et je pense que c'est comment on appelle ça, c'est ma fontaine de jouvence. Ça me permet de rester pas trop aigri, de vieillir de manière assez joyeuse, et c'est assez précieux en fait.
Ouais, ils sont magiques, hein. J'ai la chance de donner des ateliers à l'école, des ateliers radio. Ouais. Partager sa passion en plus, ça n'a pas de prix, c'est oui. Quelque chose d'absolument magique.
Et avec les enfants en plus, tu triches pas deux secondes, ça marche pas. Tu peux pas faire le poseur et tout ça, c'est un public à la fois extrêmement exigeant. Un gamin, quand il ouvre un livre, s'il n'est pas intéressé par le livre, il fera pas semblant, il ira pas poliment « oui, c'est très bien, très intéressant ». Il va pas jouer comme ça, il va reposer le livre, il va lever les épaules et il va souffler, il va dire « voilà, je passe à autre chose ».
Petite question pour finir, justement, quel conseil tu donnerais à un jeune, une jeune qui veut se lancer dans la bande dessinée aujourd'hui ?
Alors, de ne pas en faire avec l'intelligence artificielle. Ouais. Moi, c'est back to basic. J'ai été prof pendant 3 ans à Paris, au Cézanne. Donc, j'avais des étudiants. Nous, on a fait du fanzine. C'est-à-dire qu'on a bossé. En fait, j'aimerais bien que les gens parlent de dons et tout ça. Le seul don qui existe pour moi, c'est celui d'avoir envie de quelque chose. Le reste, c'est du travail, du travail, du travail. Et quand tu as envie, bah, ça vient. Enfin, je veux dire, c'est pas un... Là, moi, je fais de la gravure. Je passe des heures à faire de la gravure. c'est profondément inutile. Je produis des images, mais quand je le fais, je suis à ma place. Et du coup, ce qui pourrait paraître pesant ou difficile, pour moi, c'est un jeu. Et bien, dans le dessin, c'est pareil. On fait des choses, on rate, mais ça n'a pas de conséquence. Quand on rate un dessin, on prend une autre feuille. C'est autre chose en chirurgie ou en pilote de ligne.
Ça n'a pas les mêmes conséquences.
Ah ben non, t'as une marge de manœuvre qui n'est pas exactement la même. Moi, quand je rate un dessin, je râle un peu et puis je m'y remets, quoi. Voilà, il n'y a rien de très grave.
Merci beaucoup, félicitations. Prix nouveauté de ce festival Bulle de Burle. Est-ce que je n'écorche pas le titre, tu peux rappeler le titre?
Alors, le titre du livre, ça s'appelle La visite au Strutthof, camp méconnu. Et le scénario, c'est de Yael Hassan chez Nathan Bédé.
Merci beaucoup.
Merci.
D'un silence inédit, d'une seule partie de jambes en l'air. Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage. D'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire. On flaire, la flamme singulière. D'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire. On flaire la flamme singulière. On gagne, on perd. On perd la gagne. On reste, Dieu merci, à la merci d'un imbutal. Du plafond décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un lampadaire. D'une douleur endormie, d'un chasse-esprit, d'un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire. On flaire, la flamme familière. On gagne, on perd. La gare, la superbe. La superbe. We'll be right back. merci d'une étincelle, quelque part à Paris, au fin fond du bar d'un hôtel. Dès la prochaine vie, je rêve de se rester fidèle. Quelle aventure.
Le vendredi 31 mai avait lieu la journée des arts au collège de Florac. Lors de cette journée, les élèves ont pu faire le tour de tout un tas d'ateliers proposés par le corps enseignant. Je vous propose donc pour les prochaines minutes de me suivre au cœur du collège dans une visite auditive de ces ateliers. Ce jour-là, j'étais accompagné de Margot Guiton, professeur d'art plastique qui co-réalise avec ses élèves l'habituelle émission de l'Instant Culture Party. Aujourd'hui, tu as été aussi active, Margot, sur la journée des arts. Qu'est-ce que tu as fait avec les élèves ?
Alors, on a accroché ce matin des travaux qu'on a fait pendant 2 semaines sur le thème des végétaux. Donc, on a fait une invasion végétale qu'on a accroché sur des cordes à linge avec des pinces à linge dans le hall du collège.
C'était les élèves de quelle classe ?
Toutes les classes. C'était vraiment un projet commun.
Et toi, le résultat final, est-ce que c'est ce que tu avais imaginé ?
On n'arrive jamais vraiment à imaginer ce que les élèves vont faire, mais en tout cas, c'est très intéressant et ils sont ravis, donc ça me va.
Et c'est une expo qui est là juste pour la journée.
Et pour demain, parce que demain, il y a aussi la journée portes ouvertes, donc où tout le monde est convié, pas seulement les familles, pour visiter le collège, éventuellement peut-être projeter d'y mettre ses enfants, etc.
La journée commence avec une première rencontre, la documentaliste qui propose toute l'année un club manga.
Je suis professeure documentaliste au collège de Florac et je suis là pour l'ouverture culturelle des élèves et leur permettre de lire et de faire des choses qu'ils ne feraient peut-être pas dans les autres matières. Le club manga, on le fait toute l'année, oui, c'est surtout de la lecture. Il y a un concours de dessin auquel on participe. Et donc les élèves ont le choix ou pas de présenter un dessin, donc là c'est pas obligatoire. Par contre aujourd'hui j'ai fait venir un dessinateur spécifiquement pour qu'il puisse vraiment voir des techniques en particulier et faire des choses peut-être un peu plus professionnelles entre guillemets. En fait avec l'entente Cosséven à Florac, on a eu l'opportunité de découvrir un manga qui se passe dans les Cévennes justement, qui vient d'être édité. Et du coup j'étais en contact avec les éditeurs, le scénariste et le dessinateur par le biais de l'entente Cosséven. Au club manga ils sont 45, ça tourne, ils ne sont pas tous les jours 45, mais bon le total c'est 45. Et après au CDI ça varie selon les jours. Là, pour l'instant, il y en a une bonne dizaine. Il y a des créneaux d'une demi-heure, donc je pense qu'on en aura à peu près toujours le même nombre. Ils sont assez motivés, en général, pour venir.
Tant qu'à être là, les habituels élèves de l'émission ont pu adresser quelques questions à Cédric Piffard, l'illustrateur présent lors de cet atelier.
Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Et bonjour, je suis illustrateur et tatoueur aussi.
Est-ce que vous dessinez tous les jours ?
Oui, tous les jours, oui. Pas de jour où je m'arrête de dessiner.
Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ?
Je suis invité pour donner un cours de dessin, pour animer un atelier de dessin de manga.
Depuis quand dessinez-vous professionnellement ?
Professionnellement, ça fait 8 ans que je travaille. Je suis tatoueur et ça fait 2 ans que je suis illustrateur.
Et vous avez illustré combien de livres ?
Pour l'instant, je n'ai fait que 2 et le troisième est en cours.
Quels sont les livres que vous avez illustrés ?
Il y a 3 de Ingo que j'ai fait et j'ai aussi travaillé sur le Normandie qui était sur une BD. Et là, je travaille sur le tome 2 de 3 de Ingo.
L'atelier consiste en quoi ?
À apprendre à dessiner des personnages.
Le prochain atelier qu'on a visité était tout aussi participatif. Il mélangeait petit et grand. L'atelier consistait à débattre autour d'un thème.
Donc là, je suis Marie Lyon, je suis enseignante d'histoire géo et enseignement moral et civique. Et là, j'ai proposé aux élèves d'animer des ateliers pour cette journée des arts. Et ils ont choisi d'animer une demi-heure de débat mouvant. C'est quelque chose qu'on pratique très souvent en cours habituellement tout au long de l'année. Et donc, ils ont décidé de l'animer avec des questions de leur choix. Donc là, on vient de débattre sur si vous étiez parent, donneriez-vous un téléphone à votre enfant ? Très intéressant puisque pour cette journée des arts, on a des parents autant que des élèves, autant que des AESH, des enseignants, tout le monde peut palabrer ensemble. Et donc, ça permet d'échanger des idées et d'essayer de convaincre ses parents, les élèves, et d'échanger tout plein d'idées. Donc là, on l'a fait en une demi-heure, après un quart d'heure quand même de mise en route et de choix du sujet. Mais effectivement, ça peut être vraiment un géométrie variable. Ça peut durer 5 minutes, comme ça peut durer une heure en classe. Ça nous arrive des fois de passer toute l'heure à un débat, tellement ils sont entraînés dans le jeu, de convaincre et de chercher à convaincre les autres. L'objectif est d'ailleurs vraiment de donner un argument et d'être volatile, c'est-à-dire de changer de camp régulièrement au gré des arguments qui vraiment nous convainquent, tout en ayant l'objectif final de trouver une position consensuelle à la fin.
Et voilà un exemple de débat.
Alors moi j'ai changé de camp parce que justement par rapport à ce que tu disais, le conflit, mais en fait les générations d'avant l'ont connu aussi ce conflit, ça a été la génération télé. Les enfants de la télé. Certainement qu'avant, il y avait les générations, les enfants de la musique, du rock. Je crois que ça a été... les parents, ils devenaient fous. Et en fait, je pense que notre génération doit vivre cette folie de... On a des enfants qui ont eu l'explosion de cette technologie, le téléphone, les communications Internet. Voilà. Et même dans la physique. Et enfin, bref. Ce qui fait qu'on a une évolution aujourd'hui. Et je pense qu'avec eux, en fait, on apprend à grandir et à faire avec ces technologies. Si on les bloque... On sait, en tant qu'adulte, ça peut créer ça marche, les enfants, ou alors ils vont carrément aller à l'encontre et feront peut-être n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on reste présent avec un accompagnement? La question, on a qu'à demander à nos anciens, à dire, comment t'as fait avec la télé? Ou à se rappeler, et comment ils faisaient dans la...
Moi, je
sais pas.
Donne-nous ton argument du milieu.
L'argument du milieu, c'est que je suis d'accord sur la question des conflits qui ont été toujours les mêmes, enfin différents justement, mais qui existent en tout cas entre parents et enfants, quelles que soient les générations. Mais que ce qui est, à mon avis, important, c'est plus d'apprendre à nos enfants à être en relation avant de leur apprendre l'usage d'un outil technologique, me semble-t-il.
Dans la salle suivante se trouvait une projection de diverses vidéos, entièrement réalisées par les élèves de l'UPP Pierre Delmas à Saint-Élémy.
Alors bonjour, je suis Monsieur Mallet, le professeur d'histoire-géographie de l'UPP Pierre Delmas à Saint-Élémy. Je suis également professeur à Merweis. Et dans le cadre de la journée des arts de Florac, je suis venu avec les élèves de l'UPP présenter les travaux qu'ils ont réalisés. Et notamment un travail autour d'un projet touristique dans le cadre d'un EPI interdisciplinaire avec plusieurs collègues. Donc avec les élèves de 4e et 3e, on a travaillé sur le tourisme à Saint-Élémy, notamment sur les lieux emblématiques du village, avec pour objectif de les présenter touristiquement et pouvoir faire une présentation auprès des parents, des familles, sur les lieux importants de Saint-Élémy, et ensuite garder ce souvenir-là pour la fin de l'année.
Le projet final prend la forme d'une vidéo. C'était ce qui était prévu à la base, ça s'est construit avec les élèves?
Alors à la base, on devait faire une vidéo. On devait surtout faire plusieurs vidéos avec des QR codes qu'on pouvait retrouver dans Saint-Élémy et qui devaient être présentées lors d'un spectacle de fin d'année au collège. Finalement, ça s'est transformé en présentation générale ici à la Journée des Arts, où on a fait un montage avec M. Barthez qui est complet, où on a regroupé toutes les vidéos en une seule, mais il est toujours possible de retrouver les vidéos indépendamment avec le générique de début et de fin en QR code sur un drive particulier.
Et du coup, ce genre d'atelier, c'est quelque chose qui peut être refait à l'avenir avec d'autres élèves les années d'après?
Alors, je pense que ça pourra être refait, bien sûr. Maintenant qu'en plus, on a un peu appris comment faire, on s'en sortira peut-être mieux, notamment au niveau des conditions climatiques, la gestion du vent, par exemple, au niveau du son. Et l'avantage de Saint-Élémy de ne pas avoir beaucoup d'élèves, c'est que ce genre de projet peut facilement prendre vie du fait, justement, qu'on peut facilement trouver un lieu pour chaque élève et que chaque élève puisse avoir son moment à lui, ce qui aurait été plus difficile avec une classe de 25 pour le coup, où chaque élève aurait peut-être pas eu son moment et sa vidéo.
Donc moi je tiens à féliciter les élèves de l'UPP qui ont quand même fait un bon travail, même si, comme c'est des jeunes, ils peuvent avoir un petit peu honte de leur travail, alors que mine de rien c'est du bon boulot. Ils ont fait le montage, ils ont fait les textes, ils ont fait le son, tout. C'est eux qui filment. Moi, j'ai rien eu à gérer quasiment. Donc honnêtement, c'est du bon travail de leur part. Il y a de très belles vidéos. Et pareil pour les maths, on est sur également une très belle vidéo. Et je pense qu'on peut féliciter les élèves de l'UPP.
Dans cet atelier, on vient de vous voir à travers deux, trois vidéos. Expliquez-nous comment se sont créées ces vidéos.
Alors, c'est parti dans le projet EPI, donc enseignement en pratique interdisciplinaire. C'est une matière où tous les profs se réunissent pour parler du même sujet. Et donc, avec le prof d'histoire, on avait décidé de faire des vidéos autour du tourisme parce que c'était au programme de 4e, 3e.
Alors, on est du collège de l'UPP Pierre Delmas, Saint-Enimi.
Non, on n'avait pas fait de vidéo par le passé, en tout cas pour mon cas. Et on a appris comme ça, on a fait plusieurs prises, mais c'est quand même assez facile quand on voit les autres faire. Voilà.
Ça a été quoi le plus dur ? Apprendre le texte ?
Non, le plus dur, ça a été, je pense, de rédiger tout le texte et de trouver les informations pour pas que ça soit trop compliqué ni trop familier à l'oral. Donc ça a été la plus dure étape pour moi, je pense. Du coup, pour le tournage des vidéos, on a pris une matinée où on a tourné les vidéos. Après, sur les heures passées avant, on avait rédigé tout ce qui était texte. Et pour le montage, on l'a fait petit à petit pendant nos heures d'études, nos heures de vide, quoi.
En guise de pause musicale, je vous laisse avec l'atelier chant et musique. Quand on a ouvert la porte de la salle, on est tombé sur un vrai concert. Une reprise de Eye of the Tiger par les collégiens.
Collège Flora, des Trois-Vallées de Florac, et on est en 5e A.
Là, vous êtes dans l'atelier musique. La musique, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Vous faites de l'instrument ?
Moi, pour ma part, j'en ai fait un peu quand j'étais petite, mais j'ai tout oublié. Mais j'aime bien la musique, donc...
Moi, j'aime bien la musique et je fais du tam-tam, où on tape dessus, en fait. Et j'ai fait un peu de batterie, mais j'en fais plus.
Là, vous jouiez pas à l'instant. Vous avez joué à d'autres moments dans la journée ou dans l'atelier ?
Moi, personnellement, pas du tout. Je sais pas, en fait, s'il faut s'inscrire, du coup, je peux pas. Mais sinon, moi, après, je veux bien. Parce que je suis pas stressée.
Et vous pouvez m'expliquer en quoi consiste cet atelier ?
Il y en a qui jouent des instruments et d'autres qui chantent. Et ensemble, ils font une chanson, enfin une mélodie.
Le dernier atelier que j'ai eu le temps de visiter, c'est celui du professeur de technologie, où des élèves présentaient les projets qu'ils ont faits pendant l'année.
Donc c'est Serge Gréa, je suis professeur de technologie ici au collège de Florac, donc technologie, sciences de l'ingénieur. Et l'idée donc, c'est de présenter ce qu'ont fait les élèves dans l'année, avec d'un côté ce qu'ont fait les cinquièmes, avec, après je pourrais présenter plus précisément, mais entre autres un arrosage automatique de plantes. Les troisièmes là-bas, ils ont fait une sorte de lampe dynamo, donc l'idée c'est de produire du courant. Et les quatrièmes, un objet qui va être capable de tenir des crayons et une petite bouteille qui sert à écrire sur le tableau blanc. Là, aujourd'hui, c'est que la présentation. Donc, normalement, on a des élèves qui sont censés présenter, mais je n'ai pas assez d'élèves sur tous les ateliers. Donc, du coup, soit il y a des élèves, donc là, c'est le cas, là-bas, il y a Alexis qui peut présenter ce qui a été fait en troisième. Et quand il n'y a pas d'élèves, et ben, du coup, c'est moi qui m'y colle. Je présente aux gens qui viennent voir.
On avait un projet, c'était de faire une lampe dynamo. Donc, une lampe dynamo, c'est une lampe qui marche avec la force des engrenages. Donc, du coup, au début, on avait des consignes avec. Donc, on devait commencer avec un engrenage de 6 dents, de 16 dents, de 16 dents. Et du coup, là, on a du coup la lampe dynamo modélisée en 3D sur Tinkercad. Donc, on peut déplacer les engrenages et faire ce qu'on veut.
Qui l'avait modélisé en
3D. Oui, voilà. Et donc, pour optimiser donc la vitesse, on commence. Il faut toujours qu'une grande roue fasse tourner une petite roue. Et une fois qu'on l'avait fini sur le logiciel de montage, on le télécharge et on l'envoie à l'imprimante 3D, ce qui donne ça là-bas. On ne se sert pas de l'imprimante 3D, mais du coup, on se sert du logiciel de 3D. C'est le prof qui s'occupe de l'impression.
Du coup, ça a pris combien de temps pour créer cette lampe dynamo?
Environ 3h30 pour ceux qui ont été les plus rapides, donc en plusieurs séances chaque semaine.
Et il n'y a pas tout le monde qui ont fini, on a très peu qui ont fini. Ben, nous, notre groupe, on n'a pas fini encore.
Ça a été quoi la partie la plus compliquée pour modéliser une lampe?
Je sais pas, peut-être trouver ce qui était le mieux pour les engrenages, enfin trouver le bon nombre de dents qu'il fallait et trouver un truc compact, quelque chose qui soit petit et qui soit efficace. Donc c'était Algodoo, c'est un logiciel. Et du coup au tableau je crois qu'on avait déjà des consignes avec des nombres de dents définis, mais après voilà, donc sur Algodoo on avait 39 dents qui étaient tournées, donc une petite roue de 12 dents qui étaient tournées, une roue de 43 qui faisait tourner une roue de 16 dents. Et en fait, en faisant tourner donc, les petites roues qui font tourner les grandes roues, ça optimise du coup la vitesse. Là, on a une LED, donc dès qu'on tourne, ça génère avec le générateur d'électricité, ça allume la LED. Mais donc là-bas, il y a d'autres modèles. Et là, c'est pour allumer donc, des ampoules, pas des LED.
Donc pour les cinquièmes, il y a deux projets. Un où c'était une vitrine dans laquelle ils devaient installer une lumière. Et cette lumière doit s'allumer lorsqu'il commence à faire nuit. Donc il y a une carte Arduino, il y a un programme qui est fait, ce programme est envoyé à la carte, et lorsqu'il fait sombre, du coup le voyant s'allume. Voilà.
Parfait.
Et après ici...
Du coup ils font de la programmation pendant les cours aussi.
C'est ça, ils apprennent à programmer, donc ils apprennent tout ce qui est lié à la programmation, les boucles, les capteurs analogiques, capteurs numériques. Voilà. Et donc l'idée, c'est de les initier aux sciences de l'ingénieur. Et si les élèves sont intéressés par cette discipline, ils peuvent, quand ils vont au lycée, prendre la spécialité sciences de l'ingénieur et poursuivre dans cette voie et pourquoi pas faire des écoles d'ingénieurs après. Donc là, c'est une plante avec un arrosage automatique. Donc il faut imaginer qu'ici il y a une plante, bon là il n'y a pas la vidéo donc c'est compliqué, mais bon. Il y a un capteur d'humidité qui est planté dans la terre, il y a une pompe qui est reliée d'un côté à un réservoir d'eau, et de l'autre côté le tuyau qui vient alimenter la plante. Le capteur d'humidité vient mesurer la quantité d'eau, quand la quantité d'eau n'est pas suffisante, la pompe se met en route et arrose la plante. Donc là si on simule, alors je peux peut-être juste l'entendre avec le micro. Mais si j'enlève... Non. Donc là, ça envoie de l'eau à la plante et au bout d'un certain temps, ça va s'arrêter, ce qui simule ce qu'on aurait donné à la plante lorsqu'on l'aurait arrosé.
C'est à peu près le même système que juste avant avec allumé et éteint. C'est juste que c'est pas le même capteur.
C'est ça. C'est effectivement le même principe. Donc on le voit en cinquième, c'est un peu compliqué pour eux, et on refait une couche en quatrième et on peut espérer que ça soit mieux compris.
Et d'année en année, les projets sont les mêmes ou ça peut évoluer, il y a des idées différentes?
En général, un projet, comme ça met du temps un peu à l'élaborer, j'essaie de l'utiliser, on va dire, 2, 3, des fois 4 ans, et après on change d'idée.
Eh ben dis donc, c'est de la fin du reportage ça. Merci beaucoup Léo. On est bien, c'est lundi matin, tout va bien se passer, la semaine va être bonne. Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi avec la deuxième partie du reportage que j'ai fait à Sainte-Sainte-Émilie-BD au festival Bulle de Burle. Et sur les conseils de Sandrine, on réécoutera aussi Matin Brun qu'on avait enregistré lors de la journée contre les discriminations avec Émilie, Arthur et Lila à la musique. Merci à toutes et tous de nous suivre. Restez bien sur Barthas, on n'y est pas trop mal. On se quitte à Camille and the Sniffer. Et bonne journée. Bon courage, à vous de voir. Bisous.
We'll be right back.